Vous écoutez
RMC.
RMC Football Show.
Jean-Louis Tour.
Il est 18h, bonsoir à tous. C'est parti pour le RMC Football Show jusqu'à 21h. On est en semaine de Coupe d'Europe. Ça veut dire que Monaco a joué hier. On va revenir sur la défaite face au Shakhtar 1-0. Monaco peut-il encore y croire? 32-16, on va vous donner la parole, supporter de Monaco. On va revenir notamment sur ce match avec coach Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
Voilà, on est déçu quand même pour l'AS Monaco. Hein.
Ah bah oui, mais bon, allez, c'est pas fini.
C'est pas fini exactement, même si le Shakhtar a quand même fait une belle impression sur cette rencontre.
Ah oui, ça, ils ont confirmé ce qu'on avait peur.
Exactement. 32-16 supporters de Monaco pour revenir sur cette rencontre. Semaine de Coupe d'Europe, parce que demain, il y aura donc la première en Conference League pour le Stade Rennais. Le Stade Rennais affronte Rosenborg. Présentation de la rencontre tout à l'heure avec Xavier Grimaud qui a assisté aux conférences de presse. Est-ce que cette compétition doit être un objectif important pour Rennes? C'est ce que pense Bruno Genesio. On verra si coach était d'accord avec lui tout à l'heure à 19h30. Et puis Lyon. On sait que ça s'agite à Lyon. Edouard G nous a tout raconté hier. Plusieurs joueurs sur le départ, en plus de Marcelo. Des joueurs formés au club, Oussem Aouar, Cherki, Ryan Cherki également. Mais également d'autres qui sont partis plus récemment, plus ou moins récemment. Melvin Barr, Amine Gouiri. Eh bien, est-ce que c'est un constat d'échec pour la formation lyonnaise? 32-16, supporters de l'OL. On vous donnera la parole tout à l'heure à 19h. Mais on va commencer par celui que tout le monde attend, évidemment, Lionel Messi.
Je ne vous cite pas Christophe Palmeiras, le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain.
C'est bien pour la Ligue 1, je pense que sans on l'avait dit 3-4 ans avant, on l'aurait pas cru.
Écoutez le pas, Léo.
Ça va donner encore une plus belle image du championnat français et c'est, voilà, ça va être un honneur de pouvoir jouer contre un monsieur comme ça.
Voilà, les deux joueurs qu'on vient d'entendre, Florent Mollet et TJ Savagnier, les deux Montpelliérains qui se réjouissent de l'arrivée donc de Lionel Messi. Alors, on ne sait pas, on ne sait toujours pas quand il va faire ses premiers pas sous le maillot du PSG. La tendance, c'est plutôt pour un premier match à Reims pour la quatrième journée, le 29 août prochain, mais il pourrait peut-être être dans le groupe dès la prochaine rencontre à Brest. C'est possible. Et à Brest, c'est l'effervescence, les prix s'emballent. On y reviendra tout à l'heure avec Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club, qui sera avec nous. Visiblement, les prix à la revente explose à Brest pour cette rencontre, alors qu'il n'y a aucune assurance pour Messi. Mais alors coach, ton avis sur cette question qui revient beaucoup depuis l'arrivée de l'Argentin en France, est-ce que cette arrivée va profiter à tous les autres clubs de Ligue 1? 32-16, appelez-nous pour en débattre. T'en penses quoi toi?
Mais peut-être à tout, pas peut-être de la même façon et de la même importance, mais c'est sûr qu'on on va pas le redire chaque fois que l'arrivée de Messi dans notre championnat. Bon, il y a des regrets. C'est sûr que s'il arrive au moment où les droits télé sont négociés, c'est sûr que ça aurait arrangé les choses. Malheureusement, il arrive dans une période où il vient d'avoir ce virus qui est toujours là. Mais bon, allez, ça va quand même mieux puisque le public revient en grande partie dans les stades. Mais c'est sûr que ça ne peut être qu'un plus, qui aurait pu être un gros plus, mais c'est un plus quand même.
Oui, même si, alors c'est peut-être plus le cas pour les clubs de bas de tableau qui eux vont bénéficier de recettes billetterie peut-être supplémentaires, de droits de télé supplémentaires, pas forcément pour les clubs européens, non?
Non, mais si par exemple on pense que la venue de Messi c'est uniquement pour un seul match, quand par exemple pour mettons Brest. Il va y avoir un Brest-Paris-Saint-Germain avec Messi. Mais si déjà, il y a un Brest-Paris-Saint-Germain sans Messi, avec Mbappé, Neymar...
Ça dit des plaintes quand même.
Alors peut-être pas... Allez, les prix vont être un petit peu plus chers. Mais je crois que c'est quand même une très bonne chose pour que l'on puisse regarder notre championnat de l'extérieur en se disant, tiens, le championnat français... C'est peut-être pas le meilleur championnat d'Europe, mais c'est quand même le championnat où il y a un tel joueur, tel joueur, tel joueur, et ça fait quand même pas mal de grands joueurs.
Toi, combien de temps tu te laisserais avant de le faire jouer si t'étais l'entraîneur de Messi? Là, il va avoir une semaine d'entraînement avant ce match face à Brest. J'imagine que tu le prends pas dans le groupe pour le match de ce week-end.
Si tu veux, il faut quand même se rappeler d'une chose que j'ai l'impression, hein, tu me dis si je me trompe ou pas, j'ai l'impression qu'on oublie qu'à une certaine époque, Mais on n'était pas incompétents à cette époque-là. Pour préparer une saison, il fallait 6 semaines, voire 7 semaines, une première période de 15 jours avec tel ou tel travail, après une autre semaine de tel ou tel travail, pour en arriver à ne pas être encore à 100%, mais pour continuer à bosser. Là, il a eu, premièrement, des soucis sur le plan de la réflexion. C'est pas facile, même quand on est un grand joueur comme Messi, et je dirais même un joueur exceptionnel. Tu quittes le Barça après 21 ans, c'est pas simple. Donc tu as ton équipe nationale avec qui tu viens de gagner la Coupe América. Là, tu as encore eu des émotions extraordinaires. Pour moi, tu ne peux pas rejouer, c'est tout simplement imprudent, après 15 jours de reprise.
Même si t'es Messi et que tu marches sur le terrain, parce que là, il y a beaucoup de matchs où il marche. Hein.
Ben oui, d'accord, mais il y a quand même une certaine logique, et un minimum, il est quand même indispensable de te préparer 3-4 semaines, je dirais, quand même, déconne pas, même si après, tu n'es pas non plus obligé, comme tu dis, de courir. C'est vrai qu'il marche, et il marche assez souvent. Tu peux aussi le faire jouer que 60 minutes. Mais après 15 jours de reprise, en ayant à digérer ce changement, ce choix, ce départ, les émotions, la conférence de presse du Barça, son arrivée à... Ne lui en demandons pas trop quand même. Alors, je touche du bois en même temps que je parle, parce que je suis superstitieux, je veux pas porter la scoumoune. Mais ne nous plaignons pas si après il y a une blessure. On a tout fait pour qu'elle arrive.
Donc je t'imagine à la place de Pochettino. Je pense que tu laisses même passer la trêve internationale et tu le fais jouer après.
Et complètement. Je suis déjà emmerdé qu'il puisse aller encore le voyage. On ne sait pas ce qui se passe là-bas avec le Covid. Il y a un match tous les 3 jours pendant 10 ou 11 jours. Messi, c'est quand même le gars qui est la cible des adversaires, quel qu'il soit. Je suis déjà inquiet de ça. Et après, il y a le retour, donc, avec encore ce voyage. Et 15 petits jours après, rebelote, il faut repartir là-bas. Mais là, ça nous mène rapidement au mois d'octobre. Je suis désolé, mais avec une certaine inquiétude et des obligations de prudence. Ces matchs tous les 3 jours avec son équipe nationale argentine, excuse-moi, tu peux être inquiet pour moins que ça.
Ouais. Et alors, je reviens sur mon match à Brest. Si t'es à la place de Michel Derzakarian, si t'es l'entraîneur de Brest, t'as envie qu'il joue Messi ou non? Ou tu te dis, bon, là, ça va faire beaucoup trop de vagues autour de la rencontre, vaut mieux qu'il joue pas?
Non, au contraire, je crois que à partir du moment où on est content de voir ce joueur, rien que de le voir, on est content. Tu t'imagines si c'est de le voir de le voir jouer? Non, mais là, tu es Brest, mais tu sais très bien que tu dois rencontrer le Paris Saint-Germain 2 fois, que c'est très compliqué de rencontrer le Paris Saint-Germain. Mais d'un autre côté, c'est pas le match le plus emmerdant à préparer. Hein.
Ouais.
Donc le match le plus emmerdant à préparer, c'est quand tu joues contre des équipes qui ont le même potentiel que toi, le même objectif que toi, et Brest, surtout, ce qu'il faut, c'est grappiller des points pour être tranquille. N'oublions pas que la saison dernière, à 2 journées de la fin, on était, nous, en train de les pronostiquer comme barragiste, et puis finalement, ça a été à la surprise générale, les Nantais. Mais là, et c'est sûr que pour retrouver son public, parce que Brest, c'est pour moi un des endroits en France où le public a le plus manqué. Brest, c'est un endroit particulier avec des gens passionnés, chauvins, et c'est sûr que un Brest Paris Saint-Germain avec Messi, c'est un des trucs extraordinaires pour un supporter brestois.
Bah c'est sûr, d'ailleurs supporter brestois 32-16, hein, n'hésitez pas à venir pour nous dire si vous avez acheté vos places au cas où, on sait jamais si c'est l'événement, si Messi est là, si vous avez envie d'y être absolument, venez nous le dire au 32-16. On sera d'ailleurs dans une seconde avec votre directeur sportif Grégory Lorenzi qui sera avec nous donc pour parler de ça. Est-ce que Messi va faire sa première face à Brest, et surtout est-ce que son arrivée va profiter aux autres clubs de Ligue 1? Il répondra à cette question dans une seconde, et puis on parlera de l'actu de Brest également. À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
18h14, c'est le RMC Football Show avec Coach Courbis. À 18h30, on reviendra sur le match de Monaco. Hier, la défaite face au Shakhtar. Monaco peut-il encore y croire? Vous entendrez que les joueurs, évidemment, se veulent positifs. Mais avec ce qu'on a vu sur le terrain, y a plutôt de quoi être pessimiste. 32-16, en tout cas, supporters de la SM. On va vous donner la parole dans une seconde. Mais coach, on va terminer notre débat autour de Messi avec notre invité, parler de son club. On est avec Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois. Bonsoir.
Oui, bonsoir à vous.
Grégory, salut. Ben, j'en profite avant de te poser des questions pour te féliciter pour tout ce que tu fais, parce que tu fais partie de il y en a beaucoup dans nos clubs français, de personnes discrètes dont on parle pas et qui ont tout simplement le boulot de faire dans les achats et les ventes des bénéfices sans que le niveau de l'équipe baisse. Donc c'est pour moi un exploit, mais que l'on souligne pas assez. Donc je profite de t'avoir pour te féliciter, toi et beaucoup de tes collègues dans d'autres clubs français.
Merci Roland, c'est gentil, même si voilà, c'est pas évident, mais on essaie de travailler et de faire les choses en son âme et conscience pour bien évidemment continuer à rester compétitif avec notre équipe et notre club.
Alors on va parler du club évidemment, on va parler de l'actu de Brest. Juste avant, on termine quand même, nous, on était en discussion autour de Lionel Messi. Visiblement, les places s'arrachent à Brest pour le match de ce week-end, alors qu'il y a quand même peu de chances qu'il soit là, Lionel Messi. Le stade est à guichet fermé ou pas encore? Il reste des places?
Oui, les places ont été vendues, je pense, depuis maintenant presque une petite semaine où nous sommes complets à guichet fermé.
Ouais. Et visiblement, sur les places à la revente, là, les prix sont en train de s'emballer. Alors, ça ne dépend pas du club, hein. Chacun revend ses places comme il veut, mais visiblement, c'est en train de monter très haut.
C'est-à-dire, à la revente, tu veux nous parler du marché noir?
Non, ou les abonnements. Parfois, des abonnés peuvent revendre leurs places, du coup, très cher. Voilà, c'est pas forcément illégal. Vous sentez cette effervescence, là, à Brest, autour de la possible première de Messi, autour de cet événement?
Mais pas qu'à Brest, je pense que forcément tout le monde est en attente de voir les premiers pas de Lionel Messi dans le championnat de France. Maintenant, c'est sûr que si c'est chez nous à Brest, on l'accueillera avec plaisir, mais je ne sais pas encore à 100% s'il sera sur notre terrain. En tout cas, nous, quand on a la possibilité de jouer une équipe comme Paris Saint-Germain, ça crée toujours de l'engouement autour de notre club et on est très content parce que forcément, c'est ce qu'on aime aussi et rendre aussi un public heureux.
Et que pensez-vous donc de ce débat? Est-ce que selon vous, l'arrivée de Messi va profiter à toute la Ligue 1?
Personnellement, oui. Moi, j'estime que c'est une bonne chose par rapport à notre attractivité concernant la Ligue 1, parce que c'est vrai que c'est un championnat qui est assez souvent décrié par beaucoup de personnes. Et je pense qu'on avait aussi besoin d'avoir des joueurs comme Messi pour pouvoir attirer l'attention. Malheureusement, il y a des droits de télé qui ont été réévalués à la baisse juste avant cette arrivée-là. Et peut-être que si ça avait été dans le sens inverse, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui avec nos droits de télé. Mais moi, je vois plutôt les choses comme très positives, en espérant que ça puisse aussi attirer d'autres stars qui nous rejoignent rapidement dans notre championnat.
Alors, on va continuer le débat dans un instant avec Marc au 32-16 qui lui pense que ça va rien apporter à la Ligue 1. On lui donnera la parole dans un instant. Mais parlons de votre club, donc parlons de Brest. Pour l'instant, donc, c'est deux matchs nuls dans ce début de saison contre deux adversaires européens, Lyon et Rennes. Du coup, vous êtes satisfait du bilan?
Mais c'est vrai que lorsqu'on voit les trois premiers matchs du championnat en se déplaçant à Lyon, recevant Rennes et recevant aussi Paris Saint-Germain, on s'attendait forcément à ce que ça soit difficile pour nous. Mais l'équipe a réalisé deux belles prestations contre deux grosses écuries, avec un contenu plutôt assez intéressant, ce qui rend encourageant pour la suite. Je pense qu'il y a peut-être eu un match où on aurait espéré rapporter trois points. Maintenant, ça n'a pas été le cas, mais on va essayer de continuer surtout à s'appuyer sur ce qu'on a bien fait pour pouvoir être mieux armé pour la suite du championnat.
Alors il y a eu quelques mouvements dans l'effectif, mais le mouvement important, il est sur le banc. Olivier Dalloglio, donc, qui a été remplacé par Michel Derzakarian. Est-ce que selon vous,
il y a eu un échange,
croisés, voilà, chassé croisé, le chassé croisé de l'été, puisque donc Dalloglio est parti à Montpellier. Est-ce que selon vous, il faut que l'équipe assimile ce changement, ou est-ce que finalement leur méthode est pas si éloignée que ce qu'on peut dire?
Non, moi je pense que déjà, ce qui est important, c'est dans la stabilité de l'effectif, comme vous l'avez dit. Peu de changements est effectué dans le groupe. Mais c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de pouvoir élargir notre effectif pour pouvoir augmenter notre qualité, parce qu'on sait qu'on a des objectifs à atteindre et on aimerait les atteindre un petit peu plus sereinement par rapport à la saison précédente. Maintenant, il y a eu certes aussi un changement d'entraîneur. Comme je dis, c'est aussi l'avis des clubs. Parfois, les clubs sont amenés aussi à changer d'entraîneur. Avec deux styles et deux méthodes différents, avec deux entraîneurs qui ont aussi des qualités différentes. Maintenant, c'est aussi aux joueurs de devoir s'adapter à ce que l'entraîneur arrivant mette les choses en place pour que ça puisse bien fonctionner. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. On est encore au début du championnat, donc il y a aussi pas mal de choses à assimiler au niveau des joueurs. Mais je pense que les joueurs aujourd'hui sont capables aussi de vite s'adapter et passer vite à autre chose, même si sur l'aspect du jeu, peut-être qu'il y a un petit peu plus de temps de préparation, de mise en place. Et je pense que les choses vont arriver au fur et à mesure tranquillement.
Greg, en ce qui concerne le mercato, il reste une dizaine de jours. On peut s'attendre encore à des mouvements?
De notre côté, oui. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on espère. Parce qu'on sait très bien qu'un championnat, c'est long. On a besoin de force. On a besoin aussi d'améliorer notre groupe par de la qualité, non pas par la quantité. Donc on s'attarde à faire venir des joueurs qui peuvent justement nous apporter ça. Alors c'est pas facile parce que nous sommes aussi très limités sur notre aspect financier. On n'aura pas la capacité sur ce mercato de pouvoir faire des investissements. Donc on est plutôt à la recherche de joueurs en prêt ou des joueurs libres. À moi d'être aussi constructif et aussi d'être capable de pouvoir attirer des joueurs qui sont aussi sollicités par d'autres clubs sur lesquels on est parfois en concurrence. Donc je sais qu'un entraîneur a aussi envie d'avoir le plus vite possible son effectif pour pouvoir bien travailler, mais malheureusement on est obligé aussi de pouvoir s'adapter à cette situation. Donc on travaille tous les jours pour pouvoir, on va dire, amener le plus rapidement de joueurs à ce qu'on puisse avoir, on va dire, tout notre effectif et faire notre saison tranquillement.
Et côté départ, il peut y en avoir. Il y a des infos sur Gauthier Larsonneur qui pourrait partir, puisqu'il y a un gardien qui est arrivé cet été, Marco Bizot, qui a débuté la saison. Il pourrait partir dans les jours qui viennent.
Pourrait, vous savez, aujourd'hui, que ce soit n'importe quel joueur.
Tout le monde peut partir, oui.
Voilà, et aujourd'hui, on n'a reçu aucune offre pour qui que ce soit. Il y a des discussions, quand je dis des discussions, ce ne sont pas entre club à club, c'est simplement des échos que peut avoir dans différentes presses. Nous, aujourd'hui, on reste surtout concentré par rapport à, on va dire, à l'arrivée de nouveaux joueurs, parce que c'est ce qu'on a besoin. Après, s'il y aura départ, ça sera en fonction des opportunités qui se présenteront face à nous. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à pouvoir rajouter là-dessus.
Pareil pour Romain Fèvre, le joueur un peu bankable de votre effectif.
Pareil, voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais nous, aujourd'hui, encore une fois, on est plutôt serein par rapport à ça. On verra ce qui se passera. Alors, comme je le dis, c'est vrai, ce qui est emmerdant pour les clubs et pour les entraîneurs, c'est qu'un joueur peut aussi être amené à partir dans les derniers instants du mercato. C'est aussi très compliqué pour pouvoir aussi changer ce genre de choses, parce que, comme je dis, nous, si on aura besoin de vendre, il va falloir peut-être aussi réajuster par derrière. Donc, ce sont aussi des choses qui peuvent être un petit peu délicates. Même si notre métier veut qu'on doit... On doit aussi anticiper sur ce genre de choses-là. Mais pour le moment, encore une fois, voilà, c'est un marché qui a été très calme cette année, qui peut aussi forcément s'emballer dans les derniers instants. Mais pour le moment, comme je dis, on va rester très concentré sur nos arrivées, et on verra en fonction de ce qui se passera pour les côtés départ.
Très bien. Bah, Grégory, merci d'être venu sur RMC.
Salut Grégory.
Avec plaisir. Merci à vous. Avec plaisir, merci.
Grégory Lorenzi, directeur sportif donc du Stade Brestois. L'arrivée de Messi va-t-elle profiter aux autres clubs de Ligue 1? Pour coach, c'est oui. Pour Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, c'est oui. En revanche, pour Marc, qui a fait le 32-16, c'est non. Salut Marc.
Bonjour à tous.
Salut Marc.
Explique-nous.
Alors, bon, très simplement, déjà, je vais mettre les choses au clair. Si j'étais supporter du PSG et que Messi était arrivé, je serais le plus heureux des hommes. Bon, je suis pas supporter du PSG. Donc, perso, je m'en fiche, en fait, qu'ils soient les gars. Pourquoi je pense que ça apporte rien? Déjà, la première chose, c'est que ça fera pas augmenter les droits télé, comme certains ont voulu nous expliquer, puisqu'ils sont déjà vendus jusqu'en 2024. Et qu'en 2024, je suis pas sûr que Messi soit encore à Paris ou s'il est, c'est pour encore très peu d'années. Donc, je suis quand même pas sûr que ça aura une influence sur les appels d'offres. Et puis après, on sait que les appels d'offres, ça dépend du découpage, des lots, etc. La deuxième chose, c'est que ça va peut-être remplir les clubs, les stades quand il y aura Paris qui va venir. Sauf que les stades sont déjà remplis quand Paris vient et les prix des places sont déjà au plus cher. Et si je dis pas trop de bêtises, il me semble qu'en plus, elles sont majorées par type Gala, Gala Plus ou autre. Donc dans tous les cas, les clubs peuvent pas mettre des places 400 fois plus chères que ce qu'elles étaient au démarrage. Donc pour moi, ben, ça changera rien sur le taux de remplissage des stades. Et si, peut-être, ça fera passer de 95 à 100% le nombre de places vendues, mais c'est tout.
Je ne crois pas que ça peut ramener des droits télé, soit à l'international, soit en France, quand il y aura un nouvel appel d'offres.
En fait, ça ne peut pas, parce que pour l'instant, Beansport possède les droits, et que même si Beansport arrive à les revendre plus cher, ça ne fera pas plus d'argent dans la Ligue 1. Voilà, le prix, il est fixe, je ne sais plus combien ils ont payé, je crois que c'est 75 millions par saison, et s'ils arrivent à les vendre deux fois plus cher, ça ne fera pas deux fois plus pour la Ligue 1. Donc on verra quand les droits sont rentrés, mais bon, après, vous savez, vous achetez pas les droits pour un match, généralement. Donc je ne pense pas que ça a un impact important. Et si ça a un impact, ça va avoir un impact sur 40 millions divisé par 20 clubs, c'est-à-dire pas grand-chose, surtout quand vous savez que les droits télé, en plus, sont lissés par la position de classement, donc vraiment pas grand-chose. Si on continue, parce que la liste est très longue, bon, le championnat il est déjà mort depuis qu'il y a les Qataris qui sont au PSG, et c'est pas la victoire de Monaco puis de Lille, parce que Montpellier c'est au tout démarrage. On voit comment sont faits les après-saisons et comment elles sont gérées. Le remplacement de Galtier par Grosvenor, pour moi, est un exemple flagrant. Donc ça fait pas mieux travailler les clubs. Et puis ça fait mieux travailler les clubs. Ça ferait longtemps que le club travaillerait bien, ce qui n'est pas le cas depuis quasiment 10 saisons. On n'a pas vu d'évolution positive, dans le sens où tous nos clubs de Ligue 1, sauf Paris, font du trading de joueurs. On a très peu qui l'assument, mais le font tous. D'ailleurs, on verra ce que ça va donner avec un mercato très faible sur les comptes des finances des clubs en fin de saison l'année prochaine. Mais ils le font tous. On voit que les gens ont besoin de vendre. On voit qu'ils ont tous besoin de vendre, de toute façon. Mm-hmm. Et personne n'a développé une cellule de recrutement digne de ce nom pour faire du trading de joueurs. Donc, quand on laisse partir des joueurs, on ne sait jamais trop ce qu'on récupère derrière.
Alors, Marc, à ce niveau de la liste, puisque c'est vrai qu'elle est longue, Roland va te dire un mot et après tu pourras conclure.
J'en ai un tout petit dernier. Ça concerne l'arrivée des autres investisseurs dans le football quand les Qataris sont arrivés. Et c'était avant Messi, tout ça. On disait, bon, ça fait venir des gens. On a vu ce que ça a donné. Marseille, ça n'a pas été top. Mon club des Girondins de Bordeaux, ça a été juste une catastrophe monumentale. et la liste d'autres clubs est aussi pas très bonne. Ouais, enfin, moi, pour l'instant, de l'arrivée des Qataris, il n'y a jamais eu un effet positif sur la Ligue 1. Hein, ça n'a jamais rien amélioré. Et c'est pas Messi qui va donner quelque chose. On a dit Ibrahimovic, on se dit, ah, c'est génial. Ah, mais Neymar, c'est génial. Neymar, Mbappé, c'est génial. Mais rien du tout. Enfin, c'est génial pour Paris et ça se limite à Paris.
Coach, mais si tu veux, je te suis très attentivement. Ce que tu dis, ça peut être logique, mais je pourrais appeler ça une certaine logique. Et après, chacun peut avoir la sienne. Moi, par exemple, je pense que l'arrivée des Qataris il y a 10 ans n'a pas laissé insensibles les Russes du côté de Monaco, les Ineos du côté de Nice. On va pas tous les citer. Et je pense que si, avec le championnat que nous avons, et si tu veux, ben, une équipe comme Lyon, qui a quand même eu une bonne tenue, Marseille aussi, Lille, qui a fait quand même une bonne saison, avec solutions à trouver par rapport aux difficultés que nous avons dans notre pays avec notamment les charges. Je te pose une question. Tu es investisseur ou tu es sponsor? Tu as la possibilité d'être sponsor dans un club de football en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en France. S'il y a une chance qu'on récupère ce sponsor, avec même une belle somme, c'est parce qu'il y a 3-4 belles équipes, dont évidemment le Paris Saint-Germain, et le sponsor, la réflexion, ça sera... Ah, c'est le pays, ça, le championnat, où il y a Messi, Mbappé, Neymar. C'est un réflexe logique, non, pour un sponsor?
Le souci, c'est que le sponsor, il ne se pose pas que cette question-là. En effet, si tu veux être sponsor de Paris Saint-Germain, c'est génial.
Non, pas de Paris Saint-Germain. Sponsor dans le championnat où il y a le Paris Saint-Germain.
Mais pour quelle visibilité? Le sponsor, alors si les sponsors du championnat, la visibilité elle va être très moindre, hein, parce que pareil, c'est des sponsors qui sont déjà quasiment négociés. La visibilité, elle marche que quand il y a une visibilité extérieure.
Mais moi, je suis sponsor d'un club moyen. Donc, allez, je choisis un club que j'aime bien, Montpellier. Je discute avec Laurent Nicolin. Les arguments de Laurent Nicolin, ça va quand même être de parler du Paris Saint-Germain, de Monaco, de Lyon, de Marseille, de Nice. Et ça, ce sont des arguments valables pour le sponsor qui doit discuter avec Montpellier.
Les coachs, le sponsor, quand il va négocier avec, sans ou avec Messi, parce que le débat c'est avec ou sans Messi, ça va rien changer pour lui. On va lui dire, il y a une star en plus à Paris. Ok, donc sur un match, parce que la star Messi, quand Montpellier va jouer Lyon, Marseille, Nice, Bordeaux, Saint-Etienne, tout ça vaut plus rien, hein, puisque c'est juste Messi. Quand il y avait Messi en plus, déjà le sponsor qui va mettre son nom sur Montpellier, il le met tourné vers les gens qui vont aimer Montpellier. Je regarde, par exemple, moi, je choisis un club que j'aime bien.
Aimer Montpellier dans un championnat où il y a quand même une certaine attraction.
Oui, mais par exemple, je suis en plus Montpellier. On va dire Montpellier-Bordeaux. Je pense que ça peut être assez proche en termes d'engouement des supporters.
Ouais.
Je suis sponsor de Bordeaux. Quand Winamax met son sponsor à Bordeaux ou quand Bistro Régent met son sponsor à Bordeaux, Bistro Régent le met pas pour les gens qui sont non supporters de Bordeaux et qui vont regarder le match parce que y a Messi, il y a Neymar ou autre. Ils le mettent parce que Bordeaux peut avoir une attractivité. Ils se disent qu'en imposant leur logo et leur marque sur Bordeaux, ils font de la pub grâce à Bordeaux et pas grâce aux concurrents de Bordeaux. Le problème, ça vaudrait...
Mais non, mais c'est grâce à un championnat attractif avec des joueurs de renommée mondiale.
Je pense qu'on va pas vous mettre d'accord là-dessus. Vous êtes pas d'accord. En tout cas, Marc, merci d'être venu développer ces arguments. À bientôt sur RMC. Tu reviens quand tu veux.
À bientôt.
Salut. Et puis, sachez quand même qu'au 32-16, si vous appelez à partir de maintenant, eh bien, on vous offre vos places pour Nice-Marseille, dimanche, 20h45. Donc, on a plusieurs places à vous offrir. Donc, allez-y, appelez-nous au 32-16 pour vous donner une chance de gagner ces places pour l'affiche du week-end. Dans une seconde, Monaco. Peut-il encore y croire après la défaite 1-0 face au Shakhtar et surtout après le contenu qu'on a pu voir? À tout de suite sur RMC.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
18h35, c'est le RMC Football Show avec Coach Courbis sur RMC. À 19h, on passera à Lyon. Le centre de formation est-il en plein constat d'échec vu les départs annoncés? Edouard G qui a une info mercato à nous donner sur une arrivée. Ce sera tout à l'heure à 19h. Mais place à Monaco tout de suite. Coach, défaite 1-0 donc hier en barrage aller de Ligue des Champions, défaite à domicile pour l'ASM face au Shakhtar Donetsk. Alors on ne peut plus ressortir le fameux pourcentage d'équipes qui se sont qualifiées à l'aller en perdant 1-0 à domicile, puisque désormais il n'y a plus cette fameuse règle du but à l'extérieur. Donc pour Monaco, il faut gagner au Shakhtar au match retour, gagner par 2 buts d'écart pour se qualifier, ou par 1 but d'écart pour aller en prolongation. Voilà, c'est assez simple, hein, du coup. En revanche, une défaite ou un nul, évidemment, Monaco serait reversé en Europa League. Alors, est-ce que les Monégasques peuvent y croire? 32-16, appelez-nous. Coach, avant de donner ton avis, les joueurs répondent que oui, bien sûr, ils peuvent y croire, mais qu'il faudra surtout soigner l'entame, contrairement à ce qui s'est passé hier. C'est ce qu'estime Djibril Sidibé, le défenseur de Monaco.
On a fait une belle saison pour arriver à disputer ce genre de match. Mais mentalement, on ambitionne de jouer la Champions League. Aujourd'hui, la tâche est un peu plus difficile. J'ai dit aux joueurs, voilà, rien n'est fini. Mais à nous de bien récupérer et puis d'aller là-bas avec nos ingrédients, beaucoup d'agressivité, puis il faudra faire le match parfait pour espérer une qualification.
Voilà, et sur le match d'hier, ce qui les plombe, c'est ses 20 premières minutes, hein, coach.
Oui, mais déjà, si on revient un petit peu en avant, on a quand même le temps pour en discuter. Et nous aussi, il faudra faire gaffe dans le prochain championnat, quand on commente les matchs, les objectifs, et qu'on parle de ce podium. Podium, oui, le podium, ça dépend ce qui se passe dans les autres championnats. Quand tu termines deuxième, tu es sûr et certain de jouer la Champions League. Quand tu termines troisième, si tu n'as pas de chance et que tu as une finale Manchester United Villarreal qui se termine au tir au but, mais si c'est Manchester United qui gagne au tir au but, tu n'as pas besoin de faire les tours préliminaires. Si c'est Villarreal, malheureusement, tu les fais. Donc là, il y a 7 tours préliminaires. Déjà, tu y laisses des plumes en championnat parce que, sans chercher d'excuses, on peut quand même chercher des explications à Monaco. Prendre un seul point quand tu rencontres Nantes et Lorient, pourquoi pas ? Bravo Nantes, bravo Lorient, mais on peut penser que les matchs de Prague et les matchs du Shakhtar ont été aussi responsables. Et maintenant, tu te retrouves dans une position où je réponds à ta question. Oui. Est-ce qu'ils peuvent y croire ? Ben évidemment, pouvoir y croire, c'est sûr. Mais entre pouvoir y croire et se qualifier, parce que maintenant il faut gagner au Shakhtar, c'est autre chose. Alors, on va pas taquiner Kovac, qui est un garçon sympa, compétent.
Oui, je croyais que ce serait mieux avec une équipe qui ouvre le jeu.
Voilà, mais bon, là, on va pas lui mettre maintenant sur commande les adversaires qu'il envie. Peut-être, c'est vrai que match autour, si le Shakhtar joue sans gardien de but, il y aura quand même des chances que Monaco puisse être en Champions League.
Mais pour ceux qui n'ont pas suivi,
Kovac
avait dit avant le match, ça devrait aller parce que on aura une équipe en face qui ouvre, contrairement aux deux premières journées de Ligue 1, une équipe qui attaque en face de nous, ça devrait nous profiter.
Alors, bon. Maintenant, j'ai vu quand même, notamment dans la deuxième partie du match d'hier, un Monaco qui nous laisse l'espoir pour le match retour. Et c'est vrai que bon, il va falloir un Monaco décisif, il va falloir un Monaco efficace. Et là, pour le moment, à l'image de Ben Yedder, qui est quand même un des plus habile pour marquer, pour le moment, celui qui est le plus habile pour marquer, il est muet. Donc, sera intéressant dans le prochain match de championnat, bien jouer et de le gagner, ce match. C'est
le match de championnat. Ah oh là là, ça m'est sorti de l'esprit.
Ouais, moi aussi. Bref, et ensuite, mercredi prochain, aller faire un gros match. Tu sais très bien que là, il n'y a pas de calcul possible.
Ils reçoivent Lens ce week-end.
Ouais, c'est pas simple, mais il y a aucun match de très simple. Et donc, mercredi prochain, il faudra un Monaco sans round d'observation, d'entrée, ressembler dans le premier quart d'heure à ce qui s'est passé dans la deuxième partie du match où j'avais l'impression qu'ils étaient, finalement dangereux avec ce potentiel offensif qu'ils peuvent avoir. Tchouaméni n'a pas pris son carton jaune, ce qui aurait été catastrophique parce que l'absence de ce joueur, même si on est dans un sport collectif, ça aurait été catastrophique.
Donc, c'est des individualités devant qui doivent peut-être se réveiller.
Voilà, donc
Volant
Ben Yedder, à l'image de Ben Yedder, Golovin. Depuis quelques jours, là, on le voit toujours en train de boitiller. Donc, il y a Boland qui est là, ok, mais lui aussi, on l'a déjà vu meilleur. Je te dis, il y a ce match de Lens qui peut être très très intéressant et utile pour permettre à Monaco de faire déjà un gros match contre Lens et enchaîner après avec un gros match contre le Shakhtar. Il n'y a pas de recette miracle. C'est tout simplement obligatoire ce que je dis.
On va continuer le débat dans un instant avec Florent au 32-16. Juste avant, une info qui vient de tomber. Sofiane Diop, donc le milieu offensif de Monaco, une des révélations de la saison dernière, prolonge jusqu'en 2026
C'est très
avec l'AS Monaco. Voilà, 7 buts l'année dernière, 21 ans et il a clairement un potentiel.
Oui, donc puis en plus ça permet à Kovac de pouvoir s'en servir soit d'entrée, soit le faire rentrer en cours de match, mais c'est sûr que il fait partie des 16 joueurs importants de Monaco.
Dans un instant, on donne la parole au supporter monégasque. Florent va nous rejoindre au 32-16. Est-ce qu'il y croit pour le match retour ? Il va nous le dire, restez avec nous sur RMC, à tout de suite.
RMC Football Show, Jean-Louis Tour.
18h45 sur RMC, c'est le RMC Football Show avec Coach Courbis. On est en plein débat sur Monaco. On évoque Lyon à 19h. Le centre de formation, est-on en plein constat d'échec vu certains départs ces derniers temps ou des joueurs mis sur la liste des transferts? 32-16 supporters de Lyon. On aura une info mercato à vous donner également avec Edouard G. Mais tout de suite, Monaco, donc la défaite 1-0 au Shakhtar. Les monégasques sont-ils capables de renverser la tendance? Voyons ce qu'en pensent les supporters. Florent nous rejoint au 32-16. Salut Florent.
Bonsoir l'équipe.
Salut bon. Florent. T'as pris un coup d'air à la tête hier, j'imagine?
Depuis le début de saison, j'en prends d'air à la tête. Là. Je commence à en avoir marre.
Mais ouais. T'y crois quand même pour le retour?
Il faut y croire quand même, parce que vu qu'il n'y a plus de but à l'extérieur, c'est possible. Même avec un 2-1, c'est prolongation. Donc voilà.
Oui, avant, avec un 2-1, t'étais qualifié. Hein.
Bah oui.
C'était mieux le but à l'extérieur dans ce cas-là.
Oui, mais bon, voilà. Mais au moins, avec un 2-1, on est encore en vie. Donc voilà, etc. Même avec un 0, voilà, c'est prolongation. Bon, voilà quoi.
Ouais.
Donc voilà, il faut gagner. Mais bon, après, comment dire, en espérant qu'on ne joue pas chez eux, mais je pense qu'on va jouer chez eux.
Oui, alors effectivement, pour le Shakhtar, on sait jamais trop. Là, ce sera Donetsk, tu penses?
Non, à Kharkiv, j'ai entendu de la.
Oui, voilà, c'est
gars,
ça.
Voilà.
Oui.
Voilà, à Kharkiv, là, voilà ça. Donc voilà, mais de base, on se pensait qu'on n'allait plus jouer dans un terrain neutre.
Ah oui, d'accord.
Ça aurait été plus simple, peut-être.
Ouais. Alors, ce qui est inquiétant, c'est le niveau de ton équipe. Comment expliquer qu'offensivement, il y a autant de difficultés par rapport à la saison dernière, selon toi?
Je sais pas, peut-être pour Ben Yedder, le contre-coup de l'Euro, pour Volland, l'Euro aussi. Boadou, pour l'instant, qui vient d'arriver, qui trouve pas les marques. Golovin, il prend que des coups en ce moment, donc voilà, il peut pas être au top. Voilà quoi, je cherche, j'ai été au premier match contre Nantes et clairement, j'ai pas trouvé une équipe super top, voilà quoi. Je cherche.
Ouais, les adversaires peut-être aussi se sont adaptés, se méfient sans doute un peu plus de Monaco qu'avant, coach. Ça compte, ça aussi. On le voit pas forcément trop, mais ça compte.
Oui. Donc ça, autant que Monaco, quand ils rencontrent le Paris Saint-Germain, ils sont capables de mettre un plan anti Mbappé. Ben quand on rencontre Monaco, on peut mettre un plan anti Ben Yedder.
Ah oui, c'est ça.
En plus, j'avais eu coach en fin de saison en disant que Monaco allait être champion de France. Il avait rigolé et bon voilà quoi, on a failli le faire, mais finalement j'ai vu que le PSG n'était pas champion de France, mais bon je sais pas s'ils en souviennent.
Oui, je m'en souviens et d'ailleurs il manque pas grand chose parce que ce match perdu, je m'en rappelle, contre Lyon à domicile, alors que tu as 11 contre 10, ça c'est même pas une erreur, c'est presque une faute professionnelle.
Voilà, mais non, mais après, voilà, j'avais pensé à ça, voilà, donc en plus, comme tu es là, Roland, donc voilà, je vais pouvoir rediscuter ça. Mais je pensais, et puis j'avais carrément oublié aussi quelque chose dans cette analyse-là l'an dernier, c'était le Covid que j'avais oublié, et contre Lyon, toute l'équipe a été décimée par le Covid.
Et par contre, il y a un truc, je répète comme un perroquet, c'est que les dégâts, même quand on a 20 ans ou même quand on a 25 ans, les dégâts que peut faire le Covid à l'intérieur d'un organisme quand on l'attrape et qu'on est là, bon allez, il faut attendre une dizaine de jours, quarantaine, machin, etc.
Oui.
Non, on ne sait pas encore les dégâts que peut faire ce Covid. Et c'est pour ça que moi, je crains pour tous les clubs, beaucoup de blessés dans les semaines et les mois à venir, avec la traditionnelle fin de phrase, en souhaitant me tromper,
oui,
bien évidemment.
Ou sans même aller jusqu'aux blessures. Il y a les cas de Covid longs qui sont en train d'être détectés de plus en plus. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont avoir des méformes dues au Covid sans se blesser. Et ça, on ne pourra jamais le voir.
Complètement. Et on n'en sait rien. Ah ouais. les dégâts que peut faire ce virus de merde.
Florent, qu'est-ce que tu voulais dire?
Je pense que Golovin aussi, comme il a été impacté en fin de saison par le Covid, je pense qu'il est rattrapé par ça pour ses blessures aussi.
Ouais,
c'est fort possible.
Et voilà, Ben Yedder aussi. Hein,
ils sont méconnaissables. Il y a quand même un truc.
Bon, après, chaque joueur en méforme, on ne dira pas que c'est le Covid non plus. On peut aussi être en méforme sans que ce soit
lié. Mais bon, il y a un grand point d'interrogation quand même.
Hier, Ben Yedder qui loupe sa frappe, alors que d'habitude, celle-là, il la met, qu'il la met complètement à côté. Voilà, quoi. Je ne comprends pas. Voilà, il y a des choses que. Et puis même Boadou aussi qui loupe, voilà, Boadou, là il manque de confiance, bon, voilà, il frappe le poteau,
quand tu regardes le but du Shakhtar, ils sont quand même pas chanceux, les Monégasques, tu as un défenseur qui essaye d'intervenir et pratiquement il lui fait faire le crochet au joueur de Shakhtar qui se retrouve après avec ce plat de pied à faire. C'est une soirée où il n'y a rien qui rigole.
Et est-ce qu'il n'y a pas également eu un problème dans l'approche du match? C'est-à-dire que Sidibé, il fait un peu allusion en disant au match retour, il faudra mettre de l'intensité, il faudra être présent. Sous-entendu, on a eu l'impression que Monaco, il pensait pouvoir jouer aussi bien, voire mieux que le Shakhtar, alors qu'en fait, il fallait peut-être s'adapter, mettre peut-être un peu plus d'impact. On a eu l'impression pendant longtemps qu'il les regardait jouer. Peut-être qu'à un moment donné, il faut utiliser d'autres armes.
Avec toutes les explications que peut nous donner Kovac, tu rentres de Lorient avec une défaite. Pardon ?
En jouant à la balle.
Mais attends, je ne sais pas en jouant à quoi, mais en tout cas, Lorient fait un bon match sérieux, et quand tu regardes Monaco et que tu comptes le nombre d'occasions de Monaco ou le nombre de situations dangereuses avec effectivement une équipe de Lorient qui t'attend dans les 20 derniers mètres, il y en a pas beaucoup, donc tu rentres pas de Lorient avec une énorme confiance pour battre le Shakhtar, hein.
C'est sûr, le match de Lorient, oui, mais ils ont joué au ballon, ils ont fait que... Moi, en ce moment, je les appelle les Barcelonais. Ils aiment trop faire du tiki-taka, on joue, on est là. Non. Et maintenant, il faut du tranchant devant le but. Et en ce moment, ils ne l'ont pas.
Ils se regardent un peu trop, tu veux dire?
Voilà, ils veulent jouer au ballon, ils veulent garder le ballon, ils veulent la possession, et on a la possession, il n'y a pas de souci.
Moi, je te dis, je ne veux pas faire un jeu de mots, ils ne sont pas décisifs et ils ne sont pas incisif et efficace. Ce Monaco-là, en ce moment, on ne l'a pas. Le Monaco de la saison dernière, tu avais l'impression qu'il allait y avoir pratiquement chaque fois une situation dangereuse ou une occasion de but, et une fois sur deux, elle était mise au fond. Ça, ce Monaco-là, on ne l'a pas encore.
Oui, mais pourtant, c'est le même groupe que l'an dernier.
Ben oui.
À part Jean-Lucas et Boadou.
Oui.
Et pourtant, Jean-Lucas, il colle bien au milieu de terrain.
Ouais, moi je trouve qu'il fait une entrée plutôt pas mal, hein, Jean-Lucas.
Chaque fois que je le vois jouer, ce joueur, je le trouve jamais mauvais.
Ouais.
Moi personnellement, je l'ai vu contre Nantes pour son premier match en tant que titulaire. Il a tenu ce qu'il fallait tenir. Après, voilà, moi pour l'instant, je vais pas tirer sur l'attaque comme sur les attaquants comme Myron Boadou. Il vient d'arriver, faut lui laisser un peu de confiance. Voilà. Mais par contre, Bénédère Violante, c'est connu, c'est reconnu. Ils se connaissent et ils jouent pas ensemble depuis le début de saison. Ils ont du mal à se trouver. Et ça, je comprends pas.
Ouais. Ils ont du mal à être tranchants, effectivement. Bon, au pire, si ça passe pas au retour, c'est l'Europa League.
Ben oui.
Florent, peut-être que, voilà, peut-être aussi que tu vas pouvoir exister, faire un beau parcours, une petite épopée.
Mais bon, comme disait Roland, c'est maintenant, on est obligé d'attendre sur un Messi pour dire ah ouais voilà pour être en Ligue des Champions, de savoir si c'est Chelsea, si c'est Manchester, si c'est le Barça, si voilà qui doit nous qualifier. C'est plus nous qui sommes maîtres du destin quand on finit troisième.
Oui c'est ça, exactement. Bon, et le match de Lens là en championnat, tu le vois comment?
Clairement, bon, sur le voilà, je pronostique 1-2 pour Monaco. Mais si ça continue comme ça, je pense que Lens, ils vont nous bouffer, voilà, clairement.
Non, n'exagérons pas quand même.
Je suis défaitiste, mais là.
Donc que tu nous dises que Lens va nous poser des problèmes, Lens va nous bouffer. Déconnons pas.
Ah oui, nous bouffer carrément. Même on a une défense, elle est pas si top que ça en ce moment.
C'est vrai. Et là aussi, c'est des individualités qui font faux bond. Bah, Diachil en difficulté hier.
Maripane qui revient de la Copa, pour l'instant, il n'est pas encore là.
Ouais, après, c'est son match de reprise hier. Hein.
Voilà. Dizazi, c'est un coup sur deux.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, Dizazi, c'est un coup sur deux. Et puis en plus, c'est. Bon, voilà, on reparle de l'an dernier, hein, mais c'est de sa faute si on perd la Ligue des Champions, la Coupe de France.
Ouais, bon, après, il est fautif, effectivement. Après, est-ce que c'est sa faute? Bon, voilà.
Sur le premier but, ouais.
Si on prend pas ce but-là, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Voilà, c'est toujours pareil. C'est dès l'instant où on prend le premier but, après, derrière, c'est difficile. Mmh. Après, on les regarde jouer. Mais voilà, mais Dizazi, c'est un coup sur deux, voilà. Voilà, quoi. après, le système, déjà, j'ai du mal à le comprendre. Un coup, un 3-5-2, après, sinon, c'est on défend à 5, on défend à 4. Enfin, voilà, j'ai du mal à comprendre son système à Kovac. Pourtant, l'an dernier, c'était le même système. Et ça
a marché. Bon.
Voilà.
Florent, merci d'être venu au 32-16. À très bientôt sur RMC.
Salut,
Florent. Ouais, vas-y, bien sûr.
Une dédicace à mon ancien club, Valofis FC, en foot à 7. J'ai essayé de tenter de jouer contre le Média Football Club plusieurs fois. On n'a jamais répondu, voilà. Donc,
c'est pas vrai. Gilbert a jamais répondu?
Non, clairement, à chaque fois, non, on peut pas.
Après, il y a un calendrier chargé, hein, Florent.
Ouais, mais après, comment dire, au pire des cas, quand j'envoie un tweet, on me répond pas. Donc,
ça, c'est pas donc, cool. Voilà, j'irai le dire à Gilbert que c'est pas cool, il faut répondre au tweet.
Voilà, j'aurais bien voulu jouer contre toi dans les buts et te mettre un but.
Eh ouais, mais t'aurais pas marqué, t'aurais été dégoûté.
Ah, mais c'est pas grave, moi.
Non, mais après, t'es dégoûté, t'arrêtes d'écouter RMC, on perd des auditeurs, ça va pas, tu vois.
Non, même pas. Même pour dire. Non, j'ai. Après, je laisse la parole, mais j'ai offert une possibilité à mon ancien club de jouer contre le staff du Paris FC. On a perdu 9-3 et c'est pas pour autant que je
Non, mais je rigolais, t'inquiète pas.
Voilà. Mais j'aurais bien voulu jouer contre le Média Football Club.
Écoute, Florent, insiste auprès de Gilbert. Je vais suivre la demande et on va voir ce qu'on peut organiser. Et embrasse les enfants qui sont derrière.
Ah oui, il y a mon fils qui est là. Oui, il est supporter de Monaco aussi.
Ah bah, j'ai dit oui, père en fils donc. Salut Florent, à bientôt sur la RMC.
Merci.
Et faites comme Florent, hein, si vous êtes supporter de Lyon, on va en parler dans un instant, de Lille tout à l'heure, de Rennes, 32-16, venez débattre avec nous. Et puis au 32-16, si vous appelez, vous vous donnez une chance également de gagner des places pour Nice-Marseille, dimanche 20h45, là, c'est une belle affiche. Hein. Franchement, ça peut partir dans tous les sens, Nice-Marseille peut avoir 3-3.
Ah, il peut déjà y avoir des buts, ça...
on peut mettre les deux équipes marques là.
Pas besoin de se casser la tête.
C'est ça. Lyon, dans un instant, le centre de formation est-il dans l'impasse quand on voit certains départ ou certains joueurs mis sur la liste des transferts et puis l'info mercato à venir dans la deuxième heure donc du RMC Football Show avec Coach Courbis. À tout de suite.
RMC Football Show.